I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois. Moi c'est Thibaut et on se retrouve de nouveau pour discuter d'une année de ciné en particulier avec non pas un mais deux invités cette fois-ci. Réalisateur et scénariste, son premier long métrage Comment je suis devenu super-héros sort le 14 octobre prochain, c'est Douglas Attal. Salut Douglas.
Salut.
Comment ça va?
Ça va super, très content d'être là.
Eh bien super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir.
Et le second invité est journaliste, notamment pour les magazines Première et Trois Couleurs, et il est l'auteur du livre Les Révolutions de Mad Men, c'est Damien Leblanc. Salut Damien.
Salut.
Comment ça va?
Ben très bien, très heureux de pouvoir parler cinéma et d'une grande année de cinéma avec vous.
Très bien, très bien. Merci à toi d'être là, Damien. Alors, un nouvel épisode d'Année Lumière, déjà fou par les invités qu'on a en face de nous, effectivement, et qui va l'être encore plus avec l'année traitée tout simplement tarée. Au programme, le dernier film de Stanley Kubrick, le Festival de Cannes et Cronenberg, et une colossale question, avons-nous déjà trouvé la plus grande année de l'histoire du cinéma? Bref, accrochez-vous, l'année 1999. C'est parti. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo No. 5 de Lou Béga, rappelez-vous, on écoutait ça en 99, ouais, douloureusement. 99, c'est aussi l'année de la diffusion du tout premier épisode des Sopranos sur HBO. La série David Chase durera 6 saisons. C'est également l'année de la fusillade du lycée Columbine, qui inspirera le film Elephant de Gus Van Sant, dont on a parlé dans notre épisode sur 2003. Et c'est aussi le moment où l'humanité a officiellement dépassé les 6 milliards d'êtres humains sur la planète. Pour info, on est actuellement un peu plus de 7,7 milliards. Mais 1999, c'est aussi et surtout du cinéma, et une quantité hallucinante de films majeurs, tous très différents, tous sortis cette année-là. Bref, une concentration de talents qui n'est pas due au hasard, qui a peut-être bien plus de choses en commun qu'il n'y paraît, et qui est donc au cœur de notre premier thème. Thomas Newman, compositeur d'American Beauty, c'est ce que vous venez d'entendre, la BO, la bande originale d'American Beauty, réalisée par Sam Mendes. Alors, American Beauty, pourquoi vous l'écoutez? Parce que en 99, le film sort, donc, premier film de Sam Mendes. Mais il y a aussi, la même année, Sixième Sens, de Night Shyamalan, Matrix, Fight Club, Dans la peau de John Malkovich, Virgin Suicide, et encore, une quantité hallucinante de films majeurs que vous connaissez tous. Et ils viennent tous d'une nouvelle génération de réalisateurs. C'est tous leur premier, deuxième, troisième film. Pourquoi tous ces films? Pourquoi tous ces talents au même moment, au même instant, la même année?
Disons que moi, j'ai une petite théorie à ce sujet, c'est que... Bah, il y a l'an 2000 qui arrive.
Comment ça?
Et il y a cette peur de l'an 2000, du bug de l'an 2000, qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est grotesque, mais je pense que c'était un vrai flip à l'époque. Voilà, il y a un truc de fin de millénaire à mon avis qui fait que peut-être des réalisateurs se sont dit bah il nous reste pas beaucoup de temps pour faire un film avant peut-être une catastrophe ou un truc grave qui va se passer. Donc voilà, on va faire des films vraiment radicaux, sans concession et qui nous représente vraiment tel qu'on est, et voilà, on mettra tout ce qu'on est dans nos films, quoi.
Ah, c'est intéressant ça comme théorie, moi je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est une bonne théorie, qu'est-ce que t'en penses, Damien?
Bah, je suis d'accord, parce qu'en fait, 99, c'est une année déjà incroyable en elle-même, puisque c'est à la fois la fin d'une décennie, la fin d'un siècle, la fin d'un millénaire. Il y avait effectivement eu la peur du bug de l'an 2000, qui à l'époque était quand même quelque chose de très présent dans les médias, dans les conversations. On avait vraiment l'impression que tout allait recommencer, qu'il y aurait des que les banques tomberaient en faillite, que tout voilà, que la presse et la civilisation s'arrêteraient. Donc il y a cette idée de effectivement de quelque chose qui se termine. Et surtout, ben, c'est aussi une époque où il y a eu la démocratisation d'Internet. Internet, c'est de plus en plus présent dans la vie quotidienne. Et ça aussi, ça a une influence, je pense, sur la façon de consommer les films, la façon de les concevoir, la façon de les promouvoir.
Ouais, donc,
il y a quelque chose de nouveau, effectivement, cette année-là. Et puis après, effectivement, comme tu disais, au niveau générationnel, c'est vraiment le moment où une nouvelle génération de cinéastes arrive. On parlait plus trop de la notion d'auteur depuis quelques années. C'est dans les années 90, c'est plutôt les années des acteurs rois, en fait.
C'était,
c'est Will Smith, c'est Jim Carrey, c'est Julia Roberts, c'est Tom Hanks. Et donc, on parlait de réalisateurs encore, mais il y avait cette notion d'auteur roi, d'auteur qui a une vision, d'auteur qui a vraiment une vision du monde dans ses films, qui avait un peu disparu. Et ça revient petit à petit avec tous les films dont on va parler. Et voilà, c'est vraiment une année assez passionnante pour ça, effectivement.
Mine de rien, les films dont on a cité ben, sont réalisés par Sam Mendes, David Fincher, Spike Jonze, Sofia Coppola, Night Shyamalan. Donc que des auteurs qui sont dans le paysage actuel du cinéma ou qui, ben, comme Sam Mendes, sont actuellement aux Oscars ou qui sont régulièrement effectivement cités en palmarès. Hein, parce qu'on n'a pas cité, mais il y a également Magnolia de Paul Thomas Anderson. Cette année-là, mine de rien, concentre toute une génération de cinéastes qui va faire le paysage cinématographique des années 2000 et 2010. Toi, Douglas, tu m'as dit, parce que c'est toi qui m'as dit, écoute Thibaut, il faut qu'on parle de 99, il faut qu'on parle de cette année folle, parce que t'as effectivement un film comme Sixième Sens. Qu'est-ce que t'entendais par ça, toi ? Qu'est-ce que tu trouves important dans le fait que Sixième Sens remet au centre...
C'est pas tant l'idée du twist, moi, qui m'intéresse dans Sixième Sens, même si je trouve que cette idée est absolument, absolument brillante. C'est plus la manière dont c'est exécuté dans le film et ce qu'il en fait. C'est un outil pour raconter une histoire sur des personnages, sur un homme qui voit non seulement voit pas qu'il est mort, mais aussi
spoiler, oh là là,
pardon. Est-ce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas vu Sixième Sens?
Excellente question.
Non, mais aussi un homme en fait qui ne voit pas que sa femme est fou d'amour pour lui en fait. Et cette richesse en fait là dans le film, moi qui m'a marqué et en fait pas tant le twist que l'équilibre entre scénario très bien ciselé, haletant, le suspense et le fond, les personnages, les thèmes abordés, l'idée que voilà, on parle aussi de manque de communication entre une mère et son fils, entre un homme et sa femme. Voilà, c'est un idéal que j'ai de film, voilà, d'équilibre parfait entre film d'auteur et film
divertissant
avec du suspense et auquel on s'accroche.
Et tu trouves que beaucoup de films de 99 ont cette qualité là d'être
absolument
à la fois d'auteur comme on en a parlé et
complètement.
Bah non, effectivement, ouais, sur la question du twist par exemple, donc Sixième Sens, on a beaucoup parlé pour son twist final, mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour, parce que c'était pas nouveau le twist final. Il y avait eu Usual Suspect en 95 qui avait fait beaucoup parler de lui pour ça, mais c'était dans le cadre d'un film policier avec des gangsters, d'une enquête, de la manipulation policière, alors que là, on a des films comme Sixième Sens, comme Fight Club, dont le twist final, en fait, n'est pas juste une pirouette, mais en fait, vient alimenter tout le discours sur la crise des personnages. Et Sixième Sens, c'est effectivement une crise de couple. On pense que le personnage a un problème dans son mariage, on comprend pas pourquoi sa femme ne lui parle pas. À la fin, ça s'éclaire. Fight Club, également, on parle beaucoup du twist, mais ce qui est incroyable dans Fight Club, c'est que c'est un film qui montre la crise d'un homme qui travaille dans un bureau et qui s'invente une vie parallèle, qui s'invente un ami imaginaire.
Tu racontes American Beauty, là ?
Non,
ah
c'est
non, tu racontes pas. Ouais. Non, parce que c'est marrant, c'est des idées qui se retrouvent aussi, la crise d'un mec dans un bureau.
Bah, en fait, Fight Club, American Beauty, Sixième Sens, on s'en est pas forcément rendu compte tout de suite à l'époque, mais c'est des films extrêmement liés. Il y a quasiment les mêmes scènes, en fait. C'est-à-dire, Fight Club et American Beauty, à un moment où le personnage se fait virer volontairement pour pouvoir toucher de l'argent.
Complètement.
C'est vrai qu'il y a la même scène.
Mais oui, il y a la même scène, c'est la même. C'est-à-dire qu'il manipule son environnement. American Beauty, c'est un film incroyable sur les fantasmes, sur le fait que le personnage de Kevin Spacey, pour échapper à sa vie ordinaire, se réfugie un peu dans le monde du fantasme. Fight Club, voilà, moi je trouve que le twist final de Fight Club, il est fantastique parce que il arrive en fait 20 minutes avant la fin du film, contrairement à Usual Suspect où il était vraiment à la toute fin. Et il y a encore, il se passe encore beaucoup de choses derrière, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que le personnage se rend compte qu'en fait il est fou et que ce qu'il a vu n'était pas ce qu'il pensait voir, des choses qui ne sont pas avérées vraies, il doit encore régler ça, il doit encore négocier ça, et c'est, voilà, un film sur la folie moderne, en fait, sur l'illusion, sur la fin des apparences.
À l'illusion, on va en parler.
Mais c'est un peu la même chose dans Sixième Sens. Ouais. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui arrive après le twist. C'est ce que Bruce Willis dit à sa femme après le twist. C'est, voilà, c'est en fait, le twist, c'est un outil pour autre chose, et c'est ça la force de ces deux films. Ouais, par exemple, quand on le compare, le Sixième Sens, pardon, je vais parler que de Sixième Sens, parce que c'est un film qui m'obsède, mais quand on compare Sixième Sens à un film qui a un twist un peu similaire, qui est arrivé 2 années plus tard, qui est Les Autres, de Amenabar, qui est aussi un film que j'aime beaucoup, mais on sent que le twist, le film repose un peu sur son twist.
Ouais.
Et finalement,
ne vit pas trop au-delà
du twist. N'a pas grand chose, en fait, à raconter au-delà du twist. Enfin, moi, je le ressens un peu comme ça, même si j'aime bien le film. Je trouve que vraiment, presque le film repose trop sur ce twist-là, en fait.
Yeah. C'est vrai que Sixième Sens, c'est un film, effectivement, d'une grande douceur et d'une grande empathie. Et quand tu parlais tout à l'heure de l'apparition des auteurs, c'est vrai que Shyamalan, c'est pas son premier film, c'est son troisième film, mais c'est le premier qui sort en France, et c'est celui qui le révèle aux yeux du monde entier. Et en fait, Shyamalan, c'est quelque chose de vraiment nouveau dans le cinéma, parce que ça a été vendu comme un film d'horreur, un peu comme L'Exorciste, et finalement, en voyant le film, on se rend compte qu'à la fin, il y a une espèce d'apaisement, une espèce de douceur complètement inattendue. Et de la même façon, Fight Club, c'est un film qui a été vendu comme un film avec du combat, de la violence, des clubs clandestins de bagarre. Mais c'est un film qui va beaucoup plus loin que ça et qui est une vision de la... Même pareil, du couple dans Fight Club, relation entre le personnage d'Edward Norton et Dela Bonham Carter, on n'a quasiment jamais vu le couple filmé comme ça. C'est-à-dire que lui, en fait, il est en couple avec une femme et il ne le sait pas. C'est-à-dire qu'il ne l'assume pas. Il imagine qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre qui couche avec elle à sa place. Et pareil, c'est le couple, c'était au centre de ces films-là aussi. Mais ils en parlaient d'une façon vraiment nouvelle avec... American Beauty, c'est un premier film, hein, c'est le premier film de Sam Mendes qui venait du théâtre, et comme tu disais, il a eu l'Oscar cette année-là, donc c'est vraiment une génération qui arrive, qui fait des choses assez inattendues, et voilà, je rappelle, ça n'a rien à voir, mais que quand on parlait du retour des auteurs rois cette année-là, ça me fait aussi penser que, au sens même propre comme figuré, il y a aussi Malick qui revient, en fait, c'est-à-dire que Terrence Malick, ça faisait 20 ans qu'il n'était plus là, et il revient 20 ans après, et c'est un événement, en fait, ça, on peut oublier maintenant. Mais je pense que cette notion de retour des auteurs, à Hollywood en tout cas, elle est intéressante, parce que c'est à la fois le retour du concept d'auteur, donc effectivement, Fincher...
La reine, un peu.
Fincher, Paul Thomas Anderson, on commence à en parler vraiment comme des petits génies, comme on sent que ça va être eux qui vont compter dans les prochaines années. Et il y a aussi donc Kubrick, Malick, qui eux reviennent littéralement après 12 ou 20 ans d'absence. Donc c'est une année où on remet peut-être au centre effectivement la vision qu'il y a, et certains de ces films sont des très gros succès. C'est-à-dire que Sixième Sens, c'est un immense carton, et
pas Fight Club.
Non.
Mais Fight Club, c'est quand
sur
même
le après, mais après coup, tu vois, c'est devenu
un film.
Fight Club, c'est quand même 1 million d'entrées en France. C'est quand même un film qui c'est pas un flop absolu. Mais voilà, on parlait de Sixième Sens. Ce qui est fou effectivement, c'est que à l'époque, on le vend comme un film avec Bruce Willis au début, et maintenant c'est devenu le film de Shyamalan, puisque en fait c'est le plus gros succès de la carrière de Bruce Willis, et c'est presque Shyamalan qui lui a permis en fait d'avoir ce plus gros succès, alors que...
D'ailleurs, pour l'anecdote, ce qui est marrant, c'est que Sixième Sens, c'est donc le plus gros succès de Bruce Willis dans sa carrière, et c'est un film qu'il ne devait pas faire, puisque Bruce Willis, en fait, il s'est barré d'un tournage, je ne sais plus de quel film... mais du coup il a shut down un film complètement, et du coup la prod lui a dit: ok, t'es mignon, tu nous as fait gâcher de la thune, donc contractuellement t'es obligé de faire 2 films pour nous, et tu t'as pas le droit de dire non. Et donc c'était t'avais quoi, Sixième Sens, t'avais un truc The Kid, non, Il y avait un truc comme ça.
Ah oui, The Kid, ouais.
The Kid, où il se voit lui-même comme les gosses. Et Sixième Sens, c'est un film qu'il était obligé de faire, imposé, parce que le studio, il devait un truc au studio.
Ouais, effectivement.
Et au final, ça devient
il le fait presque à contre-cœur, en fait. Ouais. En tout cas, oui, tu parlais de Blair Witch Project. Donc, on rappelle que c'est un film incroyablement rentable.
Ouais, puisque, Blair Witch.
C'est un film qui coûte, je crois, 60 000 $ et qui en rapporte genre 4000 fois plus. C'est-à-dire que c'est un très, très gros carton. Et surtout, effectivement, là, Internet entre en ligne de compte dans l'expérience du spectateur, parce qu'en fait, le projet Blair Witch, c'est donc un faux documentaire, c'est un film qui nous fait croire que ce sont des gens qui se filment dans la forêt. Et en fait, la campagne promo du film s'est appuyée là-dessus, elle a fait un faux site internet qui est un espèce de faux rapport de police. Au début, ils ont vraiment fait croire, ils ont essayé de faire croire que, pendant les premiers mois, que c'était un vrai film qui avait été retrouvé en 94 et que ils ont mis des photos des objets sur le site internet, ils ont mis un faux témoignage de la prétendue mère de la disparue. C'est-à-dire que vraiment, c'est un des premiers films, ouais, le projet Blair Witch qui se dit avec internet, avec ce nouveau rapport au réel, avec ce nouveau concept de représentation que se font les gens, on va vraiment les troubler, leur faire croire que le faux, le vrai, ça c'est voilà, et Internet a surtout beaucoup aidé le film à faire parler lui et une des clés de cet énorme succès. Et effectivement, tu parlais de tous ces films, il y a cette année-là, il y a Galaxy Quest, il y a Bowfinger, enfin il y a beaucoup de films qui parlent de cette division de faux vrai, de manipulation du spectateur. Et évidemment, comment ne pas parler de Matrix qui est ouais, quasiment le film phénomène de cette année-là, parce que c'est un très très gros succès. Un peu inattendu d'ailleurs, parce que 99, si on se souvient bien, ça devait être l'année de la menace fantôme, donc ça devait être le retour de Star Wars.
Qui a été le retour de Star Wars, parce que c'est
mais
quoi, c'est,
qui a été beaucoup moins bien accueilli. Succès, ouais. Oui, il y a un succès au box-office, mais c'est un film qui a quand même déçu pas mal de fans, pas mal de monde, parce qu'il était déjà un peu en retard en termes de mise en scène, d'écriture, sur ce qui se faisait à ce moment-là. Et Matrix, c'est un peu le Star Wars de cette année-là. C'est-à-dire que Matrix, c'est le film pour lequel se passionne toute une communauté de geeks. Au départ, la Warner s'attendait pas forcément à ce soit leur gros succès de l'année. Ils avaient aussi Wild Wild West, Les Mystères de l'Ouest. Et...
Ah, c'est la même année?
Ouais, c'est la même année.
Oh,
Wild Wild West devait être leur gros blockbuster Warner cette année-là. Et en fait, Matrix l'a totalement supplanté. Et Matrix, il y a complètement cette idée de... En fait, le monde que vous croyez voir est faux, c'est un simulacre. Votre vision vous trompe, vos a priori vous trompent. Et en fait, il faut savoir regarder au-delà de la réalité. Et c'est très lié à Internet aussi, le succès de Matrix. Cette idée d'un pirate, une réalité virtuelle. C'est un film qui lui aussi doit son succès en partie au fait qu'Internet commençait à arriver. Et quand on découvrait à l'époque les films, il y avait une espèce de sidération, de pouvoir des images qui était assez fort aussi parce qu'on n'avait pas, en tout cas à l'époque, les réseaux sociaux, les smartphones, où on avait vu la bande-annonce 50 fois avant, même s'il y avait quand même l'émergence déjà des bandes-annonces en ligne. L'idée, c'est pas d'être dans une nostalgie, de se dire « Ah, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était mieux », mais c'est qu'effectivement, il y avait...
Une excitation.
Bah, dans le cinéma américain, cette année-là, il y a un enthousiasme de la part des créateurs, vraiment, comme tu disais, je pense que c'est soit le bug de l'an 2000 qui est arrivé, soit le fait que c'était la fin d'une décennie. Puis il y a aussi la théorie selon laquelle c'était une époque où les cinéastes étaient encore un peu libres parce que les studios recherchaient encore des films uniques qui seraient pas des franchises, qui seraient pas des sagas, et que donc les producteurs quelque part avaient plus pour but de dénicher la perle rare, donc il y avait un plus gros travail d'originalité. Là où peut-être que dans les années d'après, on a développé les franchises, les sagas.
C'est marrant de dire ça en 2020, ouais. Ouais.
Enfin, aujourd'hui, ça nous paraît complètement saugrenu. Enfin, vraiment, en 99, tous ces films-là dont on parle, c'est que des histoires, quasiment, hein, que des histoires originales, des scénarios originaux, pas des adaptations. Des scénarios originaux. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu irréel, surtout dans le cinéma américain. Non, mais c'est vrai que 99, c'est une année où il y a énormément d'expérimentation, énormément narrative. Ouais. Les boucles temporelles, les films à tiroir, la non-linéarité, t'as parlé de tous ces films. Il y a aussi le Soderbergh de cette année-là, l'anglais
qui est
un objet très chelou, qui est vraiment un film expérimental, comme il en fait de temps en temps Soderbergh. Il y a aussi un film qui s'appelle Go de Doug Liman qui part du principe de changement de point de vue. On suit une histoire du point de vue de trois personnages différents. Donc, il y a un film qui est divisé en trois parties. Et vraiment, on fait un peu exploser les règles à ce moment-là.
Ça impacte forcément le spectateur par la même occasion.
C'est vraiment en 99, la plupart des films dont on parle, là, c'est des sortes de films un peu existentiels avec des hommes et des femmes pour Virgin Suicide vraiment en crise, où on n'arrive pas à trouver un sens dans cette société peut-être qui écrase un peu les individus. Il y a aussi un thème qu'on retrouve aussi cette année-là, c'est-à-dire que en fait être soi-même n'est plus suffisant. En fait, si on trouve pas une autre vie, une autre identité, notre vie est trop morne et on est obligé de changer d'identité. Il y a ça dans Matrix, il y a ça dans La peau de John Malkovich. Voilà, ouais. Cette idée que chez l'autre, peut-être, et en changeant d'identité, de forme, de corps même,
dans le virtuel,
peut-être qu'on trouvera quelque chose qu'on ne trouve pas dans la société.
Tous ces films nous parlent, nous disent, nous clament de regarder au-delà des apparences, du monde qu'on voit avec nos yeux, parce qu'il y a quelque chose derrière. Matrix, évidemment, la réalité n'est pas celle que l'on voit, elle est derrière.
N'essaie pas de tordre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité.
Quelle vérité ?
La cuillère n'existe pas.
La cuillère n'existe pas.
Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet.
Effectivement, ce n'est pas la cuillère qui va se tordre, mais ça va être nous-mêmes, comme le dit le jeune garçon à Neo dans le film Matrix. Et donc, il y a cette question, effectivement, qui revient encore et toujours dans American Beauty, dans Sixième Sens, dans Fight Club, dans Matrix. Il faut voir au-delà des apparences, le monde que l'on voit n'est pas celui qui est. Quelque chose qui va être important dans les années 2000, qui est ce dialogue entre monde réel et monde virtuel. Dans Matrix, c'est traité directement parce qu'effectivement, il va dans un monde virtuel. On a un petit peu égratigné le sujet un petit peu avant, mais j'ai envie de reposer la question. Pourquoi tous ces thèmes similaires? Pourquoi cette idée similaire, elle est dans tous ces films-là? Pourquoi l'idée de voir au-delà des apparences, elle est tout le temps dans tous les films?
C'est un peu, pour moi, c'est un peu une résultante de ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'existence est tellement triste et sinistre qu'il y a un fantasme d'un monde ailleurs où les choses vont être un peu meilleures. Enfin, j'ai l'impression, voilà, que c'est la suite logique, en fait. L'idée que derrière les apparences, derrière ce qu'on voit, il y a quelque chose de meilleur. Et en fait, on n'a pas le choix parce que on perd toute espérance si on se dit pas qu'il y a quelque chose derrière le miroir qui est un peu mieux que la société dans laquelle on évolue.
Il y a aussi une autre lecture qui est: attention à ce que vous voyez, parce que au-delà de ce que vous voyez, il y a derrière des choses qui sont peut-être pas effectivement aussi sympas à voir. American Beauty, c'est le cas, ça en parle. Et il y a un autre film dont on va parler après qui en parle exactement, Eyes Wide Shut.
L'extrait There is no spoon, il n'y a pas de cuillère, et il est assez parlant parce qu'en fait, on pourrait quasiment appliquer cette phrase à tous les films dont on parle. Il y a toujours un ou plusieurs moments où il y a ça, en fait. C'est-à-dire que donc Matrix, c'est il n'y a pas de cuillère, donc cette fameuse scène. Fight Club, c'est il n'y a pas de Tyler, c'est-à-dire qu'à la fin, le héros apprend qu'en fait Tyler Durden n'existe pas. Il doit remettre en perspective tout ce qui s'est passé jusque-là.
Spoiler.
Parce que, encore une fois, un spoiler. Non, mais c'est vraiment un moment très important dans le film où on lui dit mais en fait je n'existe pas, donc débrouille-toi tout seul et ce sera peut-être mieux, ce sera peut-être moins bien, mais débrouille-toi sans moi. Il y a ça évidemment dans Sixième Sens. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il n'y a pas de problème de couple, il n'y a pas de docteur, il est mort, enfin, voilà, le passage de Bruce Willis. Et même, si on creuse vraiment, vraiment plus loin, c'est même dans American Beauty. C'est-à-dire que dans American Beauty, il y a, sur cette idée de se faire tromper par ce qu'on voit, il y a notamment la scène où le père du voisin d'en face.
Bien sûr, ouais.
Imagine, il croit qu'il y a une relation sexuelle entre Kevin Spacey, donc le héros de American Beauty, et donc
son fils.
Et le fils
homosexuel.
En fait, il y a une scène où il les voit comme ça et à travers la fenêtre, et donc il est trompé par ce qu'il voit. Il pense qu'il y a une relation sexuelle entre les deux, alors qu'en fait, ils sont en train de fumer des joints. Et ça, c'est assez bien fait en termes de mise en scène. Et donc cette idée du fait que notre vision nous trompe et qu'il y a quelque chose derrière, elle est centrale. Et effectivement, on n'est pas persuadé que ça donne des choses meilleures. C'est-à-dire que dans certains cas, c'est une libération, notamment dans Matrix. À Matrix, à la fin, le héros est totalement libéré.
Ouais. Le film se termine sur Wake Up, ouais. Qui est quand même une
donc, l'appel au réveil. Bah, non, mais c'est quasiment un manifeste politique, Matrix. Hein.
Genre, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous les masses, quoi.
Arrêtez de vous faire avoir.
D'ailleurs,
de vous faire manipuler.
C'est l'un des rares films politiques, je trouve, de l'année 99 qui n'en est pas vraiment.
Ouvertement.
Gorgé. Enfin, il n'y a pas beaucoup de films politiques en 99, quoi. C'est l'un des seuls qui a une résonance politique, je trouve, sur. Aussi l'idée de capitalisme, en fait. Je trouve que voilà, ces machines-là aussi qui écrasent un peu peuvent nous faire penser à l'idée du capitalisme. Mais y a, en fait, c'est intéressant aussi de voir que peut-être ce qui fait que cette année-là est exceptionnelle, c'est que les films ne sont pas tant politisés, ça. En fait, ils vont plus loin, les films. Ils sont plus universels que ça. Ouais. Ils s'arrêtent pas à la simple lecture politique. Il y a une lecture de ces films-là plus qu'on large, peut faire plus large
et
qui concerne tout le monde et qui s'arrête pas à des lectures théoriques politiques.
Moi j'ai une théorie parce que ces questions de oui fin de cycle critique de la société nous enfin dans Année Lumière à force de faire des années on se rend compte que un peu toutes les années sont un petit peu des années fin de cycle entre guillemets. Il y a toujours l'année est toujours un peu gorgée de gens qui veulent casser ce qui est établi, et il y a toujours des petites nouvelles générations qui arrivent et qui proposent d'autres choses. Arrive un moment donné où il y a un cycle, la fin d'un cycle, simplement, un cycle qui dure 25 ans, où tu as une nouvelle génération qui s'installe, qui vit, et du coup tu as une autre génération qui arrive et qui se dit en fait celle d'avant elle était nulle, donc elle casse tout. Sauf que ce cycle-là, qui est tout à fait naturel, je pense, dans le processus d'une société et de l'art en général et du cinéma en particulier, rencontre en même temps. Toutes ces problématiques de fin de millénaire, de 99, etc., ce qui est dire le rapport à la technologie, le rapport à l'univers virtuel, le rapport à la réalité, etc. Donc cette idée de cycle très normale rencontre plein de thématiques qui sont nouvelles et ça crée du coup plein de films atypiques comme Matrix, comme Fight Club, etc.
Non, parce qu'en fait, on dit que les films de 99 cassent tout, cassent les règles, réinventent tout, mais tu vois quand même un peu que c'est des réalisateurs qui ont grandi un peu avec les films qui, à leur époque, comme tu disais, cassaient leurs règles dans les années 70. Bah, il y a du MASH dans Les Rois du Désert de David O. Russell. Il y a du Network dans Magnolia de Paul Thomas Anderson. Enfin voilà, il y a aussi un peu de L'Exorciste dans Sixième Sens. Quand même, ces réalisateurs-là, on sent qu'ils sont... ils partent pas non plus de nulle part. Ça n'existe pas. C'est vraiment... tu sens qu'ils sont nés, leur cinéphilie est née à cette période-là, quoi.
Ah, c'est surtout que, les années 70, aux États-Unis, en tout cas, c'est une grande décennie complotiste. Il y a plein de films sur la paranoïa, il y a plein de films sur... Là aussi, c'était la fin d'une illusion, la fin d'un rêve. Tous les films un peu post-mort de Kennedy. Donc vraiment, les années 70, on peut voir tous les films de Sidney Pollack... Trois jours du Condor. C'était déjà une décennie un peu avec ces films paranoïaques de manipulation et de complot.
Déjà.
Donc les années 90 reprennent beaucoup ça. Et même ça a commencé un peu avant, parce que même l'année d'avant, il y a des films comme The Truman Show, Dark City. Donc le complot, même The Game de Fincher, mais le complot, la manipulation d'une espèce d'autorité dont il faut se méfier, ça existait déjà dans les années 70. Mais
aux États-Unis.
Nouveau,
c'est une question très américaine.
Mais ce qui est nouveau, je pense, en 99, c'est que ça arrive à un moment où, effectivement, au niveau technologique, il y a Internet qui arrive et il n'y a pas du tout le même environnement médiatique. Et je pense justement que 99, c'est aussi le début de quelque chose, en fait. C'est-à-dire que c'est des films qui, même au niveau des thématiques, sont en train de semer une petite graine qui va prendre après. Et ça, pour le coup, c'est ce que m'avait expliqué dans un article que j'avais fait sur 99. Donc Rafik Djoumi, qui est un critique de cinéma, il m'avait dit, mais en fait, la plupart des films de 99, c'est un peu la naissance du scepticisme qui va devenir après quelque chose sur Internet, sur les forums de discussion. Le côté remise en cause de la théorie officielle, c'est quelque chose qui naît un peu avec Matrix et avec tous ces films sur l'illusion, la manipulation. Et il y a une opinion publique qui a été peut-être plus critique, qui a été plus alerte, en tout cas, face aux possibles manipulations. Et en tout cas, ça a donné lieu à soit des théories du complot, soit des analyses plus exigeantes. Et donc, en tout cas, ce qui se passe cette année-là, en 99, dans les films, c'est quelque chose qui va peut-être influencer un tout petit peu l'opinion publique après, qui va être un peu plus dans la suspicion, en fait. Et on a l'impression presque que ces films-là, ils sont déjà en train de dire, voilà, les années 90, les idéaux, peut-être qu'on avait, tout ça, ça va s'écrouler, et...
Après, c'est la merde.
et à la limite, c'est peut-être mieux, en fait. Enfin, débrouillez-vous, c'est-à-dire que, voilà, la fin de ces films-là, comme on dit, c'est les personnages qui prennent conscience que...
Pessimisme social.
Ouais, non, mais que derrière l'apparence, derrière la façade, derrière le vernis, en fait, il y a autre chose. Et au moins, une fois qu'on est conscient qu'il y a cette autre chose, on peut enfin se réveiller et on peut enfin affronter son destin. Et ça, c'est peut-être la différence avec les années 70. Les années 70, elles sont vraiment désenchantées. C'est-à-dire que les films complotistes des années 70 disent que, voilà, il n'y a plus d'espoir, le gouvernement est trop fort, on est tout seul, le journaliste idéaliste qui se bat tout seul contre le gouvernement, il n'a aucune chance. Alors que c'est peut-être plus collectif 99, parce que grâce à Internet, Matrix, c'est un appel quasiment à la révolte collective. Genre, connectez-vous les uns aux autres, grâce aux outils technologiques, soyez ensemble.
Pour conclure ce premier thème, j'ai envie de dire que c'est, mine de rien, c'est peut-être pour ça aussi que ces films-là qu'on cite tous, qui sont connus de tous, ils perdurent dans l'esprit de tous. Matrix, tous ces films-là sont cultes. Et pourquoi? Parce que ils ont parlé aux gens, comme tu disais, ils sont arrivés à un niveau universel où ils parlaient aux gens. Et il reste, après 20 ans, des références cultes, parce que, simplement, ouais, effectivement, il touche à quelque chose de très intime en nous, qui est peut-être ce sentiment de révolte, et ce sentiment de se dire, tiens, je suis pas tout seul, et où je me sens peut-être pas bien dans l'univers dans lequel je suis, il y a peut-être autre chose, quelque chose au-delà. Bon, après, un thème qui se conclut sur une note de pessimisme, je propose un autre thème, un second thème, plus joyeux, peut-être. Non, pas du tout. Un second thème qui va, on va dire, filer la métaphore et filer le sens de ce qu'on dit là, sur le dernier film d'un cinéaste, sur le dernier film peut-être du plus grand cinéaste de tous les temps. Bref, on est parti pour le second thème de cet épisode 8. Une musique qui tout de suite met dans une ambiance particulière, qui est sur la bande originale d'un film qui va être le cœur de notre second thème, un film qui est le dernier de son cinéaste Stanley Kubrick, puisque ce film c'est Eyes Wide Shut, Tom Cruise, Nicole Kidman, Stanley Kubrick. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu Eyes Wide Shut, c'est l'histoire de Bill et Alice Harford, qui sont un couple bien sous tout rapport et qui vivent assez aisé avec leur fille. Et un soir, Alice, jouée par Nicole Kidman, avoue à Bill, Tom Cruise, avoir eu envie de le tromper. Ce petit événement, domestique, envoie Bill dans une nuit d'errance qui va l'amener à découvrir l'existence d'une société secrète aux ramifications mystérieuses. C'est un film qui est adapté du récit La Nouvelle Rêvée d'Arthur Schnitzler, publié en 1926. Et pour un peu de contexte, Schnitzler, c'est un écrivain donc, et aussi un médecin, puisque c'est quelqu'un qui va teinter, tous ses bouquins et toute son œuvre de psychanalyse, de l'idée du rêve, du double, etc., etc. Et Eyes Wide Shut, là-dedans, est donc le 13e et dernier film de Stanley Kubrick, qui se tourne de novembre 96 à juin 98, et Kubrick meurt le 7 mars 1999 d'une crise cardiaque à 70 ans. Kubrick meurt quelques jours après avoir montré le premier montage, qui est quasiment final, mais en tout cas juste pour que la Warner effectivement et les stars voient à quoi ça ressemble. Et donc il meurt 3 jours après, le 7 mars 99, chez lui en Angleterre. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu Eyes Wide Shut?
Oui, moi je m'en souviens, c'était au cinéma.
Oh mon Dieu!
Car j'avais le droit de le voir, vu mon âge à l'époque. Non, alors j'étais lycéen, j'ai dû le voir le samedi de la sortie.
Donc t'as découvert Eyes Wide Shut au cinéma, en salle?
Oui, et en fait, c'est vrai qu'il y avait une ambiance assez étrange, parce que je crois que la salle était pleine, c'était le premier samedi dans une grande ville qui est Paris. Mais je sentais que les gens étaient un peu désarçonnés, peut-être un peu déçus. C'était un public, il y avait des adultes, il y avait aussi des gens plus jeunes. Et à l'époque, on pensait vraiment que ça serait une sorte de thriller érotique, parce que c'était un genre quand même très à la mode dans les années 90. Il y avait eu beaucoup de films, Basic Instinct et beaucoup d'autres. Donc Il avait un peu été vendu comme un thriller érotique, un film sulfureux où il y aurait beaucoup de sexe, de scènes torrides entre Tom Cruise et Nicole Kidman. Et puis c'est pas exactement ça qu'on a vu. C'est un film, la première fois qu'on le voit, on peut le trouver un petit peu lent. On peut trouver qu'il se passe pas grand chose à première vue d'incroyable. Donc voilà, je sentais les gens trouver ça un peu long, un peu lent, mais en même temps ils étaient happés. On sentait que...
Et toi, tu te souviens de ton sentiment en sortant, ou ta première impression? Tu t'en souviens ou pas?
Évidemment, j'avais été très marqué par la scène de l'orgie, mais pas pour le côté sexuel, pour l'espèce d'ambiance qu'il y a à ce moment-là, de trucs complètement mystiques.
Avec cette musique qu'on a entendue, du coup.
Voilà, Tom Cruise qui erre dans cette soirée masquée, on ne sait pas trop ce qu'il vient vraiment chercher. Voilà, moi, je me souviens de ça, en fait. Je ne comprenais pas vraiment, à l'époque, en tant qu'adolescent, ce que Tom Cruise... chercher dans ce film, pourquoi il faisait ça. Et puis évidemment, au fil des années, en le revoyant, en discutant, c'est un film complètement incroyable, qui a beaucoup de niveaux de lecture. Effectivement, je pense que ce qui est assez original aussi, c'est ça, c'est le fait que le Kubrick meurt et le film sort 4 mois après. Et ça, c'est quand même extrêmement rare dans l'histoire du cinéma. En plus, encore une fois, c'est vraiment, il meurt avec le siècle, quoi, parce que Kubrick meurt en 99, qui est la dernière année du siècle et du millénaire, donc c'est comme s'il avait un peu choisi le moment de partir. Enfin, en tout cas, apparemment, il est mort d'épuisement, vraiment, sur ce film. Kubrick, la même année, il meurt et il laisse ce film mystérieux dont, effectivement, on ne sait pas tout à fait si c'est la version finale ou pas, mais c'est un film fascinant.
Et toi, Douglas, tu te souviens de la première fois que tu as vu Eyes Wide Shut ou...
Moi, je m'en souviens vaguement. Je ne l'ai pas vu en salle. Je l'ai vu assez tard, je pense. Je m'en souviens vaguement, mais je suis un peu comme toi, Damien. Moi, j'étais un peu sceptique après l'avoir vu la première fois. Et c'est vraiment, en le revoyant, je pense que c'est un film vraiment à voir en grandissant. Enfin, non, mais il y a un truc vraiment de niveau de lecture, comme tu disais, et une richesse thématique qui font que... Tu vois, à chaque vision, une couche en plus. Et après, c'est intéressant de voir aussi que c'est un film de 99 aussi, parce que c'est toutes ces théories sur le film, c'est-à-dire les échanges sur les forums, sur Internet.
Est-ce que c'est son film ? Est-ce que c'est pas son film ?
Ça, mais aussi les théories sur le film lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pourquoi on voit ça ? Est-ce que Nicole Kidman fait partie elle-même de la secte ? Qui sont ces deux mecs qu'on voit à la fin, qui embarquent la petite fille ? Tous ces trucs-là, en fait, font que, finalement, Eyes Wide Shut est vraiment... un film de 99 aussi pour ça, quoi.
C'est drôle parce que j'ai un rapport à Eyes Wide Shut assez particulier. Pendant longtemps, Eyes Wide Shut, ça a été le film d'adulte pour moi. Ça a été un film que j'avais dû voir vraiment tôt, sans rien piger du tout. C'est-à-dire que, tu vois Tom Cruise, que tu as vu dans Mission Impossible, et là tu le vois, il marche, il fait rien, il parle à des meufs à poil, tu comprends pas, t'as Nicole Kidman, donc toi t'as 15 ans, tu vois une meuf à poil, t'es content. Et là j'ai 30 ans, et l'ayant revu à 30 ans, je sens que c'est la première fois vraiment que je saisis toute l'ampleur du film et tout ce que ça raconte. Donc tout ce qui est jalousie, peur, pulsion, fantasme. Du coup, entre guillemets, le fantasme, au fil des années, on va dire, c'est un film que j'ai beaucoup fantasmé et qui, au fil des années, a perdu de son fantasme, mais a gagné en intérêt, paradoxalement, je trouve. Et moi, j'avais une question. C'est vrai que quand on parle de Kubrick, donc là, on parle de son 13e et dernier film, comment vous situeriez, vous, Eyes Wide Shut dans sa carrière ?
Il y a ce côté film somme, presque, pas best-of de Kubrick, mais film qui réunit tout, dans un seul film toutes ces thématiques. C'est une grande réflexion sur le couple, comme l'était Barry Lyndon.
Bien sûr, ouais.
C'est une réflexion sur une famille détraquée, comme l'était Shining. Même Lolita, qui était un film sur un peu la perversion, la pédophilie. Il y a cette idée-là, un peu.
Et des vies renfouies.
Ouais, et puis il y a cette idée d'une espèce de société d'hommes qui manipule des femmes, qui sont des espèces d'objets sexuels. Même Docteur Folamour, on peut trouver des liens... Donc c'est même Orange Mécanique, parce que Orange Mécanique, il y a un moment où il est obligé de le personnage pour être guéri un peu. En tout cas, on le force à regarder des images violentes, des images de sexe. Et l'orgie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est Tom Cruise qui se retrouve confronté à des scènes de violence auxquelles il participe pas, il est spectateur passif tout en désirant être actif. Enfin, c'est un très beau film. Et il y a encore une fois, pour le rattacher à 99. là encore, c'est incroyable comme il communique avec tous les autres films, donc involontairement. Mais on parlait tout à l'heure des There is no, il n'y a pas de. Enfin, il y a un moment où littéralement, le personnage joué par Sidney Pollack lui dit, mais en fait, il n'y avait pas de second mot de passe. Toi, tu croyais que cette soirée avait un second mot de passe et que ça marchait selon ces codes-là. Et en fait, à la fin, on t'explique, mais non, tous les codes que tu as cru percevoir, c'est pas comme ça que fonctionne le monde.
Ouais.
Et il n'y avait pas ce que tu croyais voir. Et donc,
c'est encore une question de réalité, illusion.
Ouais, et d'écroulement des certitudes et un homme qui pense voir des choses qui en fait sont fausses, un homme qui est piégé par ses a priori, enfin même le titre Eyes Wide Shut, les yeux grands fermés, enfin c'est vraiment tout le film montre que ce personnage est complètement
avant se masquer.
Oui, il est aveuglé par sa vision du monde. Effectivement, quand il se rend compte que sa femme a des désirs intérieurs et que peut-être que sa femme ne le désire pas autant qu'il ne le pense, c'est comme si le monde s'écroulait pour lui. C'est un peu comme dans Fight Club, dans Matrix. Tout d'un coup, son monde s'écroule et il faut qu'il aille voir derrière les apparences. Qu'est-ce que c'est que le deuxième monde qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mirage protecteur, en fait? Ce qui était un canon de beauté à l'époque, on se rend compte que derrière, c'est peut-être plus sale que ça. Peut-être que derrière ces corps désirables, tels que l'Amérique les vend, il y a peut-être quelque chose de très sale derrière, quelque chose d'obscur, quelque chose de... Voilà, une espèce de société secrète qui tue peut-être des femmes.
Il y a un livre très très bien qui parle très très bien d'Eyes Wide Shut, qui s'appelle Le Dernier Rêve de Stanley Kubrick, écrit par Axel Cadieux, qui dit notamment effectivement que, entre guillemets, le film attire le spectateur en mettant des femmes nues et des scènes d'orgie appétissantes, on va dire, mais vend derrière... par des petits détails et des petits indices. Derrière tous ces corps nus, il y a une industrie, il y a toutes ces femmes sont des objets, il y a de la détresse, il y a de la souffrance, il y a des choses et que le spectateur participe de ça.
Non, mais en fait, Eyes Wide Shut pourrait vraiment être résumé, le titre pourrait résumer l'année 99, comme tu disais, c'est des personnages aveuglés.
Ouais.
Qui voient pas le monde comme ils devraient le voir et qui n'arrivent pas à aller au-delà de cette vision très 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 étriquée du monde qu'ils ont, quoi, qui réussissent à aller au-delà du miroir. D'ailleurs, c'est marrant de voir aussi que dans Eyes Wide Shut, il y a plein de références à Alice au Pays des Merveilles.
Ah, bien sûr. Comme dans Matrix, d'ailleurs.
Comme dans Matrix, d'ailleurs. Ouais, ça aussi, encore une fois, c'est des choses qui se recoupent dans les films.
Et le Magicien d'Oz aussi. C'est-à-dire que et Matrix et Eyes Wide Shut font des références au Magicien d'Oz à un moment avec l'arc-en-ciel. Donc c'est assez passionnant de voir que ces films-là ont quasiment la même origine, les mêmes mythes fondateurs, pour ensuite faire chacun leur propre univers. Mais
même s'il y a aussi des choses assez positives dans Eyes Wide Shut,
bien sûr,
que quand même c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour un peu tordue, un peu bizarre façon Kubrick, mais c'est une histoire d'amour
très réaliste.
La dernière réplique du film, moi je l'interprète de manière, enfin il y a quelque chose quand même de... Il y a un espoir là-dedans.
Ouais.
Il y a un espoir de renouveau, un espoir un peu bizarre, un peu chelou, mais il y a un espoir derrière que les choses vont s'arranger. Et c'est marrant de voir que ce thème un peu de crise existentielle de l'homme, souvent blanc, déborde même jusque dans les séries. Tu parlais des Sopranos au tout début de l'émission,
ouais,
mais c'est le thème central de la série la plus importante de 99 et peut-être la série la plus importante depuis 99, en fait. Donc ça déborde, ouais. c'est pas limité au cinéma, c'est un truc qui imprègne tout, en fait.
On en a déjà un petit peu parlé, effectivement. Eyes Wide Shut est un film Kubrick. Tu as parlé, Damien, de film somme. C'est un film qui est gorgé de tous ces questionnements, etc. C'est un film qui fonctionne comme tous les autres films Kubrick, c'est-à-dire c'est un film qui a plein de niveaux de lecture très très différents. C'est une histoire de couple, une histoire de société, un récit psychologique, comme l'était Shining ou d'autres films. C'est un film qui est donc tourné en Grande-Bretagne, mais qui reconstruit le New York un peu fantasmé de Stanley Kubrick, parce que Stanley Kubrick, rappelons-le, est un cinéaste américain qui s'est exilé très très tôt dans les années 60 en Grande-Bretagne pour gagner une sorte de liberté de fabrication, pour se séparer, on va dire, de la mainmise des studios américains. Et il a gagné cette liberté-là puisqu'on lui a laissé faire ses films en Grande-Bretagne. Et donc, en Grande-Bretagne, il tourne à Eyes Wide Shut et il reconstruit New York Pourtant, le New York qu'on voit dans le film, c'est une sorte effectivement d'un mélange d'un New York des années 90 et en même temps des shops et de costumes et de commerce qui n'existent plus puisqu'ils ont été amenés directement de l'esprit de Kubrick qui a dit « je veux telle échoppe avec tel nom, tel écriteau à cet endroit-là ». Donc on dirait effectivement que ce film-là est un film, on va dire, comme dirait Axel Cadieu dans son bouquin, une sorte de rêve fantasmé de Stanley Kubrick. Et en plus, qui parle de quelque chose d'intéressant, puisqu'il parle de ces sociétés secrètes dont on a parlé depuis le début. Kubrick va prendre Tom Cruise et Nicole Kidman pour son couple. Un couple qui, à l'époque du tournage du film, est dans la scientologie, en tout cas par l'impulsion de Tom Cruise, qui va faire entrer Nicole Kidman dans la scientologie. Et comment ne pas penser qu'Eyes Wide Shut parle un petit peu de ces sociétés secrètes et parle un petit peu de la scientologie. Anecdote un petit peu tragique, la propre fille de Stanley Kubrick, Vivian Kubrick, va en 98 couper les ponts avec sa famille et couper les ponts avec son père Stanley et rentrer elle-même dans la scientologie. Alors, de là à voir l'impact du film d'Eyes Wide Shut sur la vie intime et personnelle de Stanley Kubrick, c'est quelque chose de particulier. Est-ce que Eyes Wide Shut est-il le film le plus personnel de Stanley Kubrick? Est-il le film qui nous donne le plus de clés sur ce qu'était Stanley Kubrick?
Parce que en fait, il projette beaucoup de lui dans ce film Kubrick. On dit qu'il raconte une de ses histoires d'amour dans sa jeunesse, qu'on dit qu'il recrée ses souvenirs de jeunesse de façon complètement fantasmatique, de façon complètement onirique. Et puis, il y a aussi, dans son rapport à l'industrie, dans son rapport au star system, effectivement, la façon dont il traite Tom Cruise dans ce film, elle est assez incroyable. On retrouve presque le côté démoniaque, ou un peu, pas pervers, mais le côté un peu manipulateur de Kubrick. C'est-à-dire qu'on a l'impression presque, donc, quand on voit ce film, qu'il a une dent contre Tom Cruise. Il lui dit « Écoute, toi, t'es la grande star qui a fait Top Gun, Mission Impossible, et là, tu vas venir dans mon cinéma et je vais te façonner un peu voilà, comme je le veux. »
Ouais.
Et ça, c'est ce qui est dit un petit peu dans le livre d'Axel Gadieu, c'est que il joue beaucoup avec la masculinité de Tom Cruise et il joue un peu à le rendre plus efféminé, il abat complètement sa virilité en fait et Tom Cruise se retrouve complètement comme un pantin dans le monde de Stanley Kubrick. Et ça, en fait, je pense que ça dit pas mal de Kubrick qui je pense pour son dernier film, qui effectivement est très personnel parce que on peut voir la souffrance de la perte de sa fille, en fait. Enfin, voilà, sa fille qui est devenue scientologue. Il y a plusieurs scènes dans le film qui montrent ce qu'une secte comme la scientologie peut avoir comme impact dans une vie, comme souffrance. Mais donc, c'est à la fois très personnel et aussi, on sent, ouais, qu'il règle un tout petit peu ses comptes avec l'homme tout puissant qui est Tom Cruise pour montrer, voilà, une crise.
Ah, toi, tu vois ça, ouais, tu vois.
Est-ce qu'il
ne
se venge pas de Tom Cruise, justement, parce qu'il est scientologue et que la scientologie a la peau de sa fille? Moi, c'est la question.
Théorie intéressante.
Ouais, et l'autre question que je me pose, mais il y a peut-être la réponse dans le bouquin que je n'ai pas encore lu, mais qui donne très envie, c'est est-ce que Tom Cruise savait que le film allait parler de ça, de Société Secrète, parce qu'on sait qu'il est tellement. Il dit tellement rien sur son appartenance à la scientologie et tout. Moi, c'est la question que je me pose. Comment lui a vendu Kubrick le film?
C'est vrai que c'est fou, ça. Tellement de la science.
Qu'est-ce que Kubrick lui a dit qu'il allait faire pour que Tom Cruise accepte de faire ça?
Après, pour remettre du contexte, en 95-16, Eyes Wide Shut est un projet que Kubrick traîne depuis 30 piges, à fin 60, etc. Tom Cruise et Nicole Kidman, dans les années 90, ils veulent tourner avec des auteurs qui vont leur donner des Oscars. Ils veulent avoir cette gageure auteur et rôle à Oscar, etc. Donc quand on leur propose « Ah bah tiens, venez tourner pour Kubrick », pour eux, c'est fou. Et c'est vrai qu'après, le tournage a été extrêmement douloureux pour les deux. Cruise était à fond, Cruise suivait Kubrick, questionné comme il le fait toujours, parce que c'est un acteur très concerné, sur le rôle, sur comment jouer le rôle, qui je suis, etc. Donc c'est un tournage qui a duré près de plus de 2 ans, donc c'est extrêmement, extrêmement exigeant. Donc c'est, je pense, c'est un tournage qui a eu, et un film qui a eu un impact sur la relation Cruise-Kidman, assez violemment d'ailleurs, en termes intimes.
C'est sûr, hein. Et puis effectivement, tu disais comment est-ce qu'il a pu vendre ce film à Tom Cruise, mais je pense que c'est un projet qui a évolué petit à petit, parce que le tournage d'un film de Kubrick, c'est tellement long. La conception d'un film de Kubrick, c'est tellement long que je pense qu'entre ce qu'il a peut-être Raconter à Tom Cruise au début, entre ça et le résultat final, il y a forcément un monde. Et aussi parce que Kubrick lui-même ne savait pas, quand il commence le film en 96, il me semble.
Novembre 96 à juin 98.
Il savait pas que peut-être que la Scientology, la secte, prendrait autant de place finalement dans le film, parce qu'il savait pas encore que sa fille deviendrait scientologue et que ça aurait cet impact sur son intimité. Donc, je pense qu'effectivement, ça, c'est assez passionnant aussi, et le livre en parle, c'est Kubrick qui fabrique son film petit à petit en modifiant beaucoup de choses. Il vire des acteurs pour en prendre d'autres, et c'est vraiment un espèce de work in progress permanent, ce dernier film de Kubrick. Et ouais, c'est passionnant dans ce que ça dit des sectes, de Tom Cruise, de Kubrick lui-même. Et ce film, c'est une espèce de cauchemar éveillé, quoi.
Et d'ailleurs, effectivement, comme on le dit, Kubrick a présenté un montage du film. Il est mort quelques jours après, d'épuisement, parce qu'effectivement, Kubrick, il a fini le film un peu sur les rotules. Il a 70 ans, il est monté se coucher le 6 au soir, et il est mort dans la nuit du 7, et puis c'était terminé. Et du coup, après, le livre raconte très très bien comment, effectivement, le studio et les techniciens ont dû récupérer le film et essayer de faire un film le plus proche de la vision de son auteur. Donc c'est intéressant. Donc si vous êtes intéressé par Eyes Wide Shut, déjà voyez-le et faites-vous votre avis, c'est toujours intéressant. Et essayez de lire Le Dernier Rêve de Stanley Kubrick, livre d'Axel Cadieux. Sans plus attendre, on va filer vers le troisième et dernier thème de notre émission. C'est parti. Pour ce troisième thème, on a décidé tous ensemble de s'attarder sur une partie de cinéma, un territoire de cinéma dans lequel on n'a pas tellement l'habitude de s'aventurer dans Années-Lumière, qui va être à la fois un événement et aussi une personnalité. La personnalité en question, c'est David Cronenberg, puisqu'en 99, David Cronenberg, réalisateur donc de La Mouche, de Scanners, etc., etc., va sortir un film extrêmement important, Existence, qui est donc un film également qui traite des questions de rêve-réalité, de réel, de jeu, qui est donc la grande thématique de 99. Et Cronenberg, en plus de sortir Existence dans la lignée de cette thématique-là, va être le président du 52e Festival de Cannes, qui se tient du 12 au 23 mai 99. Donc le Festival de Cannes, le plus grand festival de cinéma du monde. Président d'un jury composé notamment de Jeff Goldblum, de Dominique Blanc, de George Miller, d'André Téchiné ou de Yasmina Reza. Et un jury qui va donner à l'unanimité la Palme d'Or à Rosetta, des Frères Dardenne, qui va donner entre autres quelques prix, notamment d'interprétation à Emily Deken, le Grand Prix à l'Humanité de Bruno Dumont, le prix de la mise en scène à Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, parmi une compétition qui est composée notamment d'un film de Jim Jarmusch, Ghost Dog, de L'été de Kikujiro, de Kitano, Une histoire vraie de David Lynch ou encore de Paula X de Léo Carax. Et Damien, moi, quand on a évoqué l'idée de dire bah, « Tiens, Festival de Cannes 99 », tu m'as dit « c'est une compétition et c'est un festival qui, cette année-là, est particulièrement punk. » Pourquoi tu m'as dit ça?
Non, non, en tout cas, le palmarès que choisit en fait Cronenberg et son jury, lui, est... a été considéré comme complètement radical. D'ailleurs, il faut relire les articles de l'époque. Il y a beaucoup de critiques contre ce palmarès de Cronenberg.
Radical dans le sens qui ne plaît à personne.
Oui, enfin, ça a plu à quelques personnes, mais disons que il a fait un vrai geste qui est que, en fait, il fait un palmarès 100% européen. Il donne que des prix à des films européens, donc alors qu'il y avait quand même David Lynch, Jim Jarmusch, Takeshi Kitano cette année-là. Et surtout, il semble prendre parti presque exagérément pour le cinéma réaliste. C'est-à-dire que les Frères Dardenne, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait la Palme d'Or. C'est du
oui, donc
cinéma.
C'est Rosetta, c'est Palme d'Or, plus prix d'interprétation pour Emily Deken. Après Grand Prix L'Humanité de Bruno Dumont, donc film français. Plus interprétation féminine, ex aequo avec Deken. Et interprétation masculine également. Donc L'Humanité de Bruno Dumont, pareil, trois prix. Bah, donc, européen, comme tu disais. Ouais.
Bah non, mais ce qui est intéressant, c'est... Alors déjà, cette année-là... tout le monde pensait que ce serait peut-être Almodovar qui aurait la Palme d'Or. Cronenberg ne lui donne pas, et il la donne donc à des films francophones, naturalistes, réalistes. Et Almodovar n'aura jamais de Palme d'Or. Et il y a encore des gens 20 ans après qui disent « Mais La Palme d'Or, ça aurait dû être pour Tout sur ma mère, ça aurait dû être la Palme d'Or d'Almodovar, le pauvre, toute sa vie. Voilà, non, mais c'est comme si Cronenberg avait dit à Almodovar, bah non, tu n'auras jamais de Palme d'Or.
Pourquoi ce palmarès si naturaliste, quand tu regardes le cinéma de Cronenberg, tu peux te dire, bon, l'humanité de Bruno Dumont, Cronenberg,
est-ce que,
pas tellement
est-ce que
de
c'est un choix pour le naturalisme, ou est-ce que c'est un refus d'une autre partie de la sélection qui mise peut-être un peu plus sur de la poésie,
style, ouais.
Sur de la poésie, que ce soit une histoire vraie de Lynch, que ce soit Ghost Dog, Kikujiro. En fait, est-ce que c'est vraiment un choix du naturalisme, ou est-ce que peut-être qu'il a son goût un peu pour des choses un peu plus noires,
réelles peut-être, réelles, réalité. Ouais. On revient sur la thématique 99.
Voilà, est-ce que ce petit optimisme qu'il y a dans ces films-là, c'est cette petite poésie gentillette, est-ce qu'il la réfute pas totalement, en fait? Et est-ce que c'est pas ça, Cronenberg, en fait?
Non, mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il fait le choix du réalisme dans ce palmarès, et en fait, ça parcourt totalement le film qui sort cette année-là, qui est Existence,
qui pose la question aussi, où
il y a carrément un clan qui est le clan des réalistes, contre le clan des anti-réalistes. Mmh. Donc en fait, et d'ailleurs dans les interviews sur Existence qui fait quelques mois avant Cannes, du coup parce que Existence est sorti juste avant Cannes, il parle de cette question du réalisme. Il dit mais en fait, moi Existence c'est un film sur le virtuel, sur le jeu vidéo, mais je refuse qu'on dise que je suis pas du cinéma réaliste parce que moi, à un moment il dit dans une interview mais moi je suis aussi réaliste que Mike Leigh ou que Ken Loach parce que la réalité, la notion de réalité est relative, tout est relatif en fait, le corps, le langage, et donc on a l'impression qu'il est tellement obsédé dans Existence par l'idée de réalité, est-ce qu'il faut faire triompher la réalité contre le virtuel, que en tant que président du jury, il va faire un geste complètement radical qui est de ne récompenser que des films qui sont en tout cas dans une crudité naturaliste. Et il y a notamment David Lynch qui fait quand même un film qui est aussi un film assez simple. C'est une histoire vraie, c'est son film quasiment le moins barré, le moins fou.
Le moins lynchien.
Et il lui dit non quand même. C'est-à-dire que...
Peut-être qu'il lui dit non justement parce que. Parce qu'il fait peut-être le film le moins lynchien, justement, et que, à mon avis, Cronenberg et Lynch, il y a des ponts, il y a des points communs, mais j'imagine bien Cronenberg est très déçu de voir Lynch presque se vendre un peu pour.
Devenant de cinéaste qui triture le body horror en général, ça peut.
S'abaisser à faire un film comme ça, un peu conventionnel pour Disney.
Mais tout comme 3 ans après, ce sera l'inverse. Ce sera David Lynch, président du jury. Cronenberg en compétition pour Spider. Et aucun prix pour Cronenberg. Donc, peut-être qu'entre ces deux David, il y a une petite rivalité aussi. Mais en tout cas, voilà, ce festival de Cannes, il est quand même intéressant parce que ça a surpris beaucoup de monde. Et surtout, je pense que c'est intimement lié à la vision du cinéma qu'a Cronenberg. On va reparler d'Existence et de sa filmographie, mais il est complètement travaillé par cette question de est-ce que le cinéma est là pour montrer la réalité du corps ou pas, quels sont par quels outils on passe pour exprimer le réel. Et en tout cas, certains ont dit aussi que si Cronenberg avait fait ce palmarès si radical, c'est parce que c'était un peu une réaction contre le strass et les paillettes qu'il y avait à Cannes, qu'il en avait un peu marre, que pendant 15 jours, c'était les photos, la montée des marches, les vedettes, les smokings, et qu'il a dit, écoutez, là, on est dans le temple, un peu de l'illusion du simulacre avec tous ces beaux smokings, ces belles robes. Donc moi, je vais revenir à la réalité en montrant que c'est aussi des films très... très réalistes qui sont montrés au milieu de ce décorum cannois.
C'est clairement aussi ce qu'il dit dans Existence. Hein. T'as ce fameux speech de Jude Law qui est donc dans le film, dans un jeu vidéo.
Je déteste cet endroit. Je ne sais pas ce qui nous arrive. On est là tous les deux. On se déplace à tâtons dans ce monde informe aux règles et aux objectifs totalement inconnus, apparemment indéchiffrables, voire même probablement inexistants, toujours à deux doigts de se faire assassiner par des forces auxquelles on ne comprend rien.
C'est une bonne description de mon jeu.
Un jeu invendable ou très difficile à commercialiser.
Mais auquel tout le monde partout joue déjà.
Et évidemment, Cronenberg fait une critique amère de bah, de la société, de que bah, on avance masqué, qu'on sait pas les règles et qu'on avance un peu sans savoir quoi faire. Et donc effectivement, Existence se finit sur cette phrase de est-ce qu'on est encore dans un jeu vidéo ? Et la question se pose.
Mais ça renforce cette idée. Je pense qu'en 99, c'est une année charnière. Donc, et aussi pour Cronenberg, je pense, dans son cinéma, Existence, c'est un moment de bascule, effectivement. Il y a peut-être un outil de cinéma qui fera après. Et voilà, aussi, en tant que président du jury de Cannes, c'est une année quand même qui est restée. Et ça a même influencé peut-être d'autres palmarès après, puisque les Dardenne auront à nouveau une Palme d'Or quelques années après. Quel autre aura des Palmes d'Or encore ? Enfin, voilà, en tout cas, il s'est fait remarquer en tant que président du jury cette année-là. Il y avait un vrai parti pris. Et effectivement, Existence, alors là encore... on pourrait en parler pendant des heures. Existence, c'est totalement...
C'est un peu Matrix sans DA, quoi. En fait.
C'est marrant, il y a des vrais, encore une fois, points communs, mais pas que thématiques, cette fois-ci avec Matrix, sur le plug.
Ah bah ouais.
Dans Matrix, c'est sur la nuque. Et dans Existence, c'est dans le bas du dos. Enfin, l'idée de se plugger comme ça, ouais, dans une... c'est pour accéder à cette réalité virtuelle, tu te plugs ton corps se plug, enfin c'est fou
quoi, c'est une machine,
c'est fou ce truc là quoi.
Sauf que Cronenberg est plus body horror et du coup il décide de mettre des anus et des trucs partout, ouais, un peu pareil.
Il y a un truc beaucoup plus organique dans le film.
Et que les Wachowski sont très cyberpunk et qu'ils adorent.
Et d'ailleurs il y a presque un truc inversé entre les deux films, c'est-à-dire que ce qui est moche dans Matrix, c'est la réalité que nous imposent les machines. Alors que dans Existence, ce serait presque l'inverse. C'est la réalité qui est moche et on se refuse. Enfin, voilà, il y a un truc vraiment de deux œuvres qui se répondent à tous les niveaux.
Je vais poser une dernière question pour conclure ce troisième thème. C'est que Rosetta des Frères Dardenne, Tout sur ma mère. Avant, on a parlé de Matrix, on a parlé de Fight Club, on a parlé d'American Beauty, de Eyes Wide Shut, de Magnolia, de Sixième Sens, de Blair Witch, dans la peau de John Malkovich, de tous ces films qui sont pour beaucoup majeurs, pour certains cultes. Et moi, j'ai une question simple. 99 n'est-elle pas la dernière grande année de cinéma ? Point d'interrogation.
Bah, moi, je dirais non, justement, parce qu'elle fait naître... Enfin, c'est cette année-là que naissent ou sont confirmés tous ces grands auteurs qui vont nous régaler dans les 10, 20 années suivantes. Alors, est-ce que... Il y aura une telle concentration après de films incroyables et nouvelles propositions, je sais pas. Mais ces auteurs qui naissent ici, ils nous régalent par la suite pendant 10-20 ans et même dans les années à venir. Je pense qu'ils n'ont pas fini de nous épater.
En tout cas, là, ça a lancé cette année, ça a lancé une génération qui du coup a nimbé toutes ces 20 dernières années de cinéma.
Complètement. Complètement. Shyamalan aussi. Certains diront qu'il a été décevant, ouais, mais il a quand même marqué les années suivantes, mine de rien, justement pour les hauts et les bas et son retour dernièrement avec Split et Glass. Enfin voilà, c'est à leur manière, même ceux qu'on peut considérer un peu comme décevants par la suite, ils ont marqué les années suivantes tous.
Ouais. Je dirais que c'était la dernière ronde d'année dans le sens où il y a cette cohérence là absolue entre les œuvres, ou en tout cas rien que par la présence du dernier film de Kubrick, rien que par la présence de Fight Club, pour moi c'est une année forcément spéciale,
un peu magique,
une des dernières années où on a ce sentiment de liberté totale et surtout de lien entre les films. Après effectivement il y a eu d'autres années intéressantes, tu parlais de 2011 qui est une belle année, il y a même en 2007 si vous regardez rien que les films américains qui sont à Cannes en 2007, il y a Zodiac de Fincher, il y a La Nuit nous appartient de James Gray, il y a les frères Cohen avec No Country for Old Men. Donc voilà, il y a eu des années de cinéma américain très bonnes. Et puis oui, effectivement, même l'année dernière, 2019, était intéressante, hein, avec
très belle année,
le film 2019, Tarantino, avec même des très bons films français. Oui. Ouais, Parasite, bien sûr, qui est un film important. Même des films français. Grâce à Dieu, Transsozon, Les Misérables, enfin ouais, le film de Céline Sciamma. Peut-être aussi que c'est le recul des années qui permet de dire ça. C'est-à-dire que c'était il y a 20 ans, donc on a eu le temps de les digérer cette année-là. Donc quand on revoit les films 20 ans après, on découvre tout d'un coup ce fil rouge qui les anime.
Ça me laisse rêveur en disant que je me demande quel cinéma ils vont avoir en 2999. 1000 ans après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que le cinéma existera? Vaste question. Bien écoutez, c'est donc la fin de notre troisième thème et on va donc filer vers le dernier petit bout de cette émission, on est fatigué, qui est donc le tour du monde, qui va nous permettre de parler des films qu'on adore et qu'on n'a pas pu évoquer. Le tour du monde, donc pour rappeler le tour du monde, ça nous permet effectivement ben, de... C'est des petites recos, donc pour encore un peu plus, aller un peu plus loin dans cette année 99. Et Douglas, t'avais envie de commencer, toi, sur un film qui t'avait particulièrement plu et que tu voulais partager en 99.
C'était ouais, quoi, bah, on n'a pas beaucoup parlé de cinéma français parce que c'est peut-être pas une année exceptionnelle pour le cinéma français.
Oui, c'est vrai.
C'est peut-être l'année suivante où il y a Le goût des autres, notamment, pour moi, qui est un film vraiment qui m'a marqué, mais... Mais cette année-là, il y en a quand même hein, des films français vachement bien. Et il y a un super Bertrand Tavernier qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, qui est une sorte un peu de, d'ancêtre de Entre les murs sur un directeur d'école, d'école maternelle. Et c'est un film hyper... c'est un beau film social. On a beaucoup... Enfin, certains ont reproché un peu à Rosetta, quand il a eu la palme, un peu son misérabilisme. Pour le coup, là, Tavernier, il évite totalement cet écueil. Et même s'il montre une réalité sociale très dure, avec ses familles totalement désemparées dans le nord de la France, et comment l'école essaye tant bien que mal, mais n'arrive pas toujours à réagir à ça, il y a quand même une note d'espoir et un truc... assez lumineux, incarné par ce personnage de directeur qui est joué par qui est joué magnifiquement par Philippe Torreton. Et voilà, c'est un très beau film social que je vous invite à regarder. Et puis rapidement, je recommande aussi en tant que fan de films de super-héros, Mystery Men, qui est un film sur des super-héros bracassés.
Puis en plus, le casting est plutôt pas mal.
Ouais, en Casaria, William H. Macy, Ben Stiller en super-héros bras cassés, Geoffrey Rush en méchant, un méchant qui s'appelle Casanova Frankenstein, pour vous situer un peu le délire du truc. Enfin, il y a Greg Kinnear en Superman. Enfin, c'est un film très très fun, très pop et voilà, c'est une série Z, hein, mais
qui fait plaisir,
très cool à voir.
Damien, toi, tu avais un coup de cœur, une reco que tu voulais partager sur cette année 99?
Alors moi c'est un film qu'on a déjà un tout petit peu parlé mais pas trop en détail, c'est Dans la peau de John Malkovich. Je continue à avoir une petite affection pour ce film que je regarde pas forcément régulièrement mais qui reste une espèce de petit bonbon assez inclassable cette année-là.
Premier long métrage de Spike Jonze d'ailleurs.
Ouais, et aussi on a beaucoup parlé de réalisateurs mais là c'est aussi Charlie Kaufman au scénario. Ouais. Donc là on pourrait presque dire que c'est un film pas de Charlie Kaufman, mais qui est imprégné vraiment de son style. Après, il écrira Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Il va même passer à la réalisation lui-même et faire quelques films. Et puis, il a écrit aussi Confession d'un homme dangereux de George Clooney dans les années suivantes. Mais vraiment, dans la peau de John Malkovich, voilà, c'est l'histoire d'un marionnettiste qui travaille au 7e étage et demi d'une société et il découvre une porte qui mène dans l'inconscient de John Malkovich, donc le vrai John Malkovich, qui est joué, l'acteur qui est joué par lui-même. Et ça, c'est quand même un film qui, à l'époque, crée un... Ah non, mais ouais, et puis c'est assez réussi en plus. Hein. Et il y a un super casting, Cameron Diaz, John Cusack...
Et John Malkovich,
du coup. John Malkovich, et Catherine Keener aussi. Et c'est un film réussi, et qui avait vraiment un concept casse-gueule, et je pense qu'il a inspiré... après, pas mal de séries, pas mal de films. Ces films à concept qui sont obligés d'aller plus loin que leur simple idée de départ. Et c'est assez beau comme film. C'est très surprenant.
Très poétique, ouais.
Et j'ajouterais peut-être un film dont on n'a pas parlé du tout, qui est Sex Intention, qui est aussi un film de 99. Donc, adaptation des Liaisons dangereuses, le roman de Choderlos de Laclos. Donc, c'est avec Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar. Et là aussi, c'est intéressant, cette année-là, de voir que c'est un teen movie, c'est un film pour adolescents, mais qui est imprégné aussi d'une noirceur hein, de cette époque-là. Il y a quelque chose aussi sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que Internet est un lieu maléfique sur lequel on salit la réputation des gens. Donc, voilà, on a parlé tout à l'heure un peu d'Eyes Wide Shut, de l'érotisme cette année-là. Donc, Sex Intention, c'était une belle variation sur la jeunesse, l'érotisme, pareil, l'illusion, la cruauté, une forme de désenchantement, et aussi une BO remarquable. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, rejetez un œil sur Sex Intention.
On a de quoi regarder, véritablement. Alors moi, pour terminer ce tour du monde et pour lâcher ma petite reco perso, je vous conseille de regarder un film qui s'appelle L'Arriviste, Election en anglais, un film d'Alexander Payne avec Reese Witherspoon et avec Matthew Broderick. Alexander Payne, quelqu'un qui a fait des films comme Sideways, comme Mr. Smith, comme The Descendant récemment, ou Nebraska. Donc c'est un grand auteur américain, parce que c'est, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui croque, on va dire, les drames intimes de nos vies d'une manière assez fine et assez belle, jusqu'à en faire du coup de ces personnages qui sont toujours des personnages un petit peu cassés, un petit peu pitoyables, un petit peu pathétiques, mine de rien à la fin un peu des héros. Et du coup c'est un cinéma qui est très tendre avec des gens qui sont un petit peu pathétiques, et c'est un cinéma que moi j'aime beaucoup. Et donc Élection, film La Révise, donc c'est un film qui, dans cette logique d'Alexander Payne, est très différent de ce que fera Alexander Payne après, puisque c'est un film qui est très très drôle. On a encore effectivement ce personnage de Matthew Broderick qui est un CPE dans un lycée, et qui va prendre en grippe une gamine qui est Reese Witherspoon, qui est une sorte de gamine surexcitée, qui va être présidente de tout, qui va être présidente du club d'échecs, qui va être présidente des élèves, qui va être présidente de tout, qui veut tout gérer, qui fait des cookies, qui veut être première en bibliothèque, première en sport partout. Bon bref, vous y voyez le cliché, voilà, le cliché, voilà. Et lui, il va prendre cette jeune étudiante en grippe, et il va fausser les élections de la représentante des délégués des élèves, véritablement, pour que justement elle ne soit pas réélue. Et donc c'est comment quelqu'un de 45 piges comme Matthew Broderick va prendre en grippe une gamine de 16 ans. Et c'est drôle parce que Matthew Broderick va jouer finalement le rôle de proviseur contre lequel il se battait, contre lequel il luttait 15 ans avant, puisque effectivement Matthew Broderick, c'est Ferris Bueller. Et c'est plein de films de teen movie. Donc c'est un film, voilà, à la fois super drôle, parce que c'est malgré tout une comédie, et en même temps extrêmement, voilà, fin sur toutes les petites animosités qui nous animent, tous les petits conflits internes, toutes les petites pulsions. Voilà qui conclut cette généreuse, cette massive année 99, ce gros épisode qu'on a fait autour de cette année incroyable. Je vais remercier mes invités Douglas Attal et Damien Leblanc, merci beaucoup. Douglas, quelle est ton actualité? Il me semble que tu as un film qui arrive bientôt au cinéma.
Ouais, j'ai réalisé mon premier film qui sort le 14 octobre, qui s'appelle « Comment je suis devenu super-héros ». Voilà, je suis en pleine post-prod. Et puis,
comment ça se passe?
Ça se passe super bien. Ça se passe super bien. Le montage image est fini. Je travaille sur les effets spéciaux, la musique, le son. Voilà, je suis très content et j'ai hâte de vous le faire découvrir.
Donc avec Pio Marmaille.
Pio Marmaille, Vima Laponce, Leila Bekti, Benoît Poulvorde, Swan Arlo, Gilles Cohen.
Magnifique cast, voilà. Pour un film de super-héros français. Donc
ouais, un film de super-héros français. C'est une sorte de un peu d'hybride entre un polar et un film de super-héros. Ça suit l'enquête de deux flics qui enquêtent sur une drogue qui donne des super-pouvoirs dans un univers où les super-héros sont banalisés, existent au quotidien. Voilà, c'est un film qui est un peu inspiré de des films aussi de 99, oh, ouais. De plein de choses, de mon amour pour le cinéma de Shyamalan aussi, et pour le polar. Voilà, j'espère
très bien,
va vous plaire.
On a hâte de découvrir ça, effectivement, le 14 octobre 2020.
Et la bande-annonce donne très envie, parce qu'il y a déjà une bande-annonce
bien sûr.
Qui a été diffusée l'an dernier, très en amont, et qui donnait très envie, effectivement.
Comment je suis devenu super-héros, donc. Et toi, Damien, où est-ce qu'on peut te lire, parce que tu es journaliste et auteur?
Alors, on peut me lire dans le magazine Première, qui est mensuel. On peut me lire dans le magazine Trois Couleurs, qui, lui, est un gratuit, qui sort toutes les 5-6 semaines, notamment à Paris. On peut me lire sur Twitter, évidemment. Et puis, si vous aimez les séries, si vous aimez Mad Men, voilà, il y a toujours mon livre qui est toujours disponible. Ça sera bientôt les 5 ans de la fin de Mad Men, donc... Pour les fans de cette série comme moi, on aime bien célébrer un peu, pas dire totalement adieu à cette série qu'on a aimée. Donc l'idée de ce livre, c'était de pouvoir se repencher sur la série avec un regard un peu neuf, pour ne pas totalement devoir l'abandonner. Donc voilà, si vous êtes nostalgique de Mad Men, n'hésitez pas.
Donc ton livre, s'appelle
Il s'appelle Les Révolutions de Mad Men.
Voilà.
Voilà.
Très bien.
Pas d'autres livres prévus pour l'instant.
Puis je recommande, t'en as déjà parlé, mais la rubrique flashback que tu fais pour le site Trois Couleurs, hein, c'est ça?
Pour le magazine et le site de Trois Couleurs.
Ouais, ouais. Qui revient notamment sur plein de films de 99, entre autres, mais plein de films dont on a parlé dans l'émission.
Exactement. Donc si vous voulez continuer, on va dire, le podcast et ce dont on a parlé. N'hésitez pas, donc la rubrique Flashback.
Dis-moi et puis, il y a un bouquin qui est sorti sur les films de l'année 99. Il faut quand même
en parler. Ah oui, oui, bien sûr.
C'est un film qui s'appelle Best Movie Year Ever. Alors, c'est un livre qui est en anglais, voilà, qui couvre un peu tous les films principalement américains. C'est un film très centré sur le cinéma américain, mais qui couvre un peu toute l'histoire et toute l'histoire de ces films-là, la genèse jusque l'impact de tous les films dont on a parlé dans l'émission. Voilà, j'ai pas encore fini le livre, mais c'est une lecture intéressante.
Merci beaucoup. Il me reste à remercier donc mes invités, Douglas, Damien, et vous qui nous écoutez, chers auditeurs. N'hésitez pas, si cet épisode vous a plu et si l'émission Années Lumière vous plaît, à partager sur les réseaux, sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux, si vous aimez effectivement cette émission. Tous les retours que j'ai, tous les retours que vous me donnez sont très très chaleureux et font très très plaisir, donc n'hésitez pas à continuer. C'est très apprécié. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Années Lumière. Salut, salut.
Salut, à bientôt, merci à tous.
Au revoir.